טוב, ערב טוב, ברשות מרא דאתרא, בקטרניציון דו רב, כהן סקאלי, זכר לטוב, ברשותכם, ברשות כל הקהל, מרסי, פרשת אינביטציון, מרסי המון אמי יריס, דבואר אוסי, était à la source de ce siour et j'espère que Bezat Hashem nous allons essayer de sortir quelques éléments positifs puisque nous avons une règle en bet midrash bli chidush. Il n'y a pas de centre d'étude qui se traduit réellement par un centre de demande d'exigence bet midrash sans quelque chose de nouveau. Alors vous savez très bien que nous sommes dans une période qui s'appelle Ben Hametzarim, pendant les trois semaines, entre un premier Metzar, Metzar en hébreu c'est une prison, c'est le 17 Tammuz, et le deuxième Metzar c'est le 9 Av, 6 Av et Av. Ces deux étroitesses sont très claires dans la Torah. Malheureusement aujourd'hui, nous allons toujours vers les résultats pour essayer peut-être de revenir à une cause. Et généralement, on oublie les causes pour ne s'attacher qu'aux résultats. À tel point que si je vous demande pourquoi vous avez jeûné le 17 Tammuz et pourquoi vous allez jeûner le 9 Av, vous allez me dire que les tables se sont brisées, qu'il y a eu Jérusalem qui a été contrôlée par nos ennemis, et que le 9 Av, le Beth Amikdash, a été détruit. On connaît tous ces réponses-là. Ce que vous oubliez, et ce que la plupart des gens oublient, c'est que ce n'était pas le rôle de ce jour au départ. Le 17 Tammuz devait être le jour du don de la Torah. HaKadosh Baruch Hu n'a pas prévu, entre guillemets, que ce soit une catastrophe, qu'on fasse le veau d'or. Dans l'esprit de l'infini, béni soit-il, c'était un jour propice pour graver la parole divine sur les tables et donc pour nous les donner. Nous, on a fait quelque chose d'autre. Et donc, il faut comprendre la qualité intrinsèque de ces jours pour bien comprendre ce qu'ils sont. Le 9 Av, c'est pareil, on ne s'attache qu'au résultat, la destruction du temple. Mais on oublie que c'était le jour prévu pour prendre la décision d'entrer en terre d'Israël. Et donc, toutes ces difficultés ont fait en sorte de repousser, et écoutez bien, c'est incroyable mais vrai, c'est ramené par le Rav Chida, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, dans un livre qui s'appelle Midbar Kedemot, incroyable mais vrai. Toutes les fêtes que nous fêtons aujourd'hui au mois de Tishrei, c'est-à-dire Rosh Hashanah, Yom HaKippourim, Sukkot, Shmini Atzeret, ne devaient pas être du tout aux dates où on les fête aujourd'hui. Rosh Hashanah devait être le 17 Tammuz. Incroyable. Yom HaKippourim devait être tout de Av, le 15 du mois de Av. Sukkot devait être au mois de Elul et au mois de Tishrei, il y avait une seule fête, Hosanna Rabba, Simchat Torah. C'est tout. Pourquoi tout a été décalé? Cela prouve, nous dit le Rav là-bas, que lorsque l'homme dégrade, eh bien, l'espace, le temps et l'homme se dégradent à tel point que même les fêtes originelles sont déplacés dans le temps. Et il répond à une question de Rabbi Moshe Cordovero, Alav Shalom, qui pose une question, comment se fait-il que nous sommes jugés au début de l'année prochaine? Normalement, on doit faire un bilan de l'année et être jugé à la fin de l'année. Et nous, on commence une année, et après on a 10 jours de Teshuva. C'est quoi cette histoire? Tu as commencé une année, tu commences tranquille. Eh bien, dit le Rav Chida, c'est la réponse à Rabbi Moshe Cordovero, qu'en réalité, les fêtes ne devaient pas être de la même manière positionnées dans l'année. Toujours est-il que nous devons nous attacher à l'essence. Et l'essence, c'est ne pas avoir peur que l'infini, béni soit-il, descende sur terre. Ça, c'est le 17 Tammuz. Et qu'il grave ses valeurs infinies dans notre vie. C'est ça, graver sa parole dans les tables. Et nous ne devons pas avoir peur d'entrer en terre d'Israël. Ça, c'est le 9 Av. Et si on a peur de l'un et de l'autre, eh bien, nous sommes dans 21 jours, qui s'appelle aujourd'hui, en tout cas, Ben Hametzarim. Et encore un chidouche, c'est qu'en réalité, ces 21 jours étaient tellement puissants, et ils se sont toujours dans cette puissance, seulement mal vécus, qu'ils étaient en fait, et qu'ils sont toujours dans leur graine, ces 21 jours, la graine de toutes les fêtes de l'année, du calendrier juif, de l'année prochaine. Si vous comptiez combien de fêtes nous avons, combien de jours fériés dans l'année, 21 jours. Nous disent les Chachamim, les 21 jours que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est la matrice des 21 journées de fêtes que nous allons vivre durant l'année. Et donc si je sais faire la correspondance entre les jours, je peux savoir qu'aujourd'hui, par exemple, ça va être la fête de Hanouka. Vous comprenez? Et donc si aujourd'hui je suis dans un état de Simcha, pendant ces 21 jours, eh bien, la fête que je vais fêter, qui sera l'un de ces 21 jours, sera dans la Simcha. Et inversement, si Chas v'Shalom, la personne est dans la tristesse, eh bien, elle vivra la fête en question dans la tristesse, parce qu'à la graine, elle était déjà triste. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, nous avons dévoyé, nous sommes sortis de la voie, et malheureusement, nous sommes dans une stia. Stia en hébreu, déviation. Comme la femme qui est sota, qui a dévié en fait de son mari. En hébreu, c'est très simple. Quand quelqu'un nage, sochre, on l'appelle sakyan. Quand il boit sauté, on l'appelle sakyan. Et quand il désigne sauter, on l'appelle Satan. Donc le Satan, c'est pas un ange avec des ailes et une fourche du Club Med. C'est tout simplement la force déviatrice qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous. Et nous devons donc corriger tout ça. Et pour corriger tout ça, il faut d'abord savoir à quoi servaient ces jours au départ. Et si je ne sais pas que le 17 Tammuz était censé me donner une lumière divine gravée dans des tables, eh bien, je me rappelle que de la faute. Donc toute ma vie, je vais développer un judaïsme lié à une faute. Donc la référence que j'ai en face des yeux, c'est que des fautes. Le 9 Av, encore une faute. Alors un coup on a fait un veau d'or, un coup on a eu la faute des explorateurs, donc on est en réalité rempli de fautes. Et tu ne peux pas développer une vie normale si tu es complètement, avec une seule référence, la négativité. Même pour ceux qui sont sortis d'Égypte, la sortie d'Égypte doit changer de phase. À un moment donné, il faut que tu saches où tu vas. Pas seulement d'où tu viens. Parce que si tu sors d'Égypte toute ta vie, mais c'est la même chose, ta référence c'est l'Égypte. Donc tu es vis-à-vis d'un noir et tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes, mais tu as une seule référence, le noir. Toute ta vie, tu n'as vu que du noir et tu as essayé de t'en échapper. Alors que si tu vas vers la terre d'Israël, toute ta vie tu as une autre référence, c'est la lumière que tu vois en face de tes yeux. Et c'est pour ça que les sages nous disent d'âme et aïn bata, mais là aussi, les anatarolef. Sinon, tu es tout le temps dans le sourd mera, tu quittes le mal, et tu te sauves de ce quartier, et tu te sauves de cette planète, et tu te sauves de ces gens, et tu te sauves de cette famille, et tu te sauves de cette éducation. Mais tu vas jamais nulle part. Toute ta vie, on va te faire le résumé de ta vie, tu n'as fait que te sauver. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme nous demande de construire. Si je fais référence à des lettres hébraïques, j'espère que ça aussi ce sera un chidouche, le seul mois qui vient consoler quelque chose, c'est le mois dans lequel nous sommes. On l'appelle Menachem Av. On a rajouté un qualificatif. Menachem, consolateur. Il vient consoler quoi? Av. Qu'est-ce que c'est Av? Vous aviez l'impression jusqu'à ce soir, en tout cas, que Av c'était seulement le nom du mois. Mais maintenant, je viens vous donner quelque chose de nouveau. Av, nous disent les Chachamim, c'est Alfbet. Donc, Menachem Aleph Bet, ce mois est venu pour consoler l'alphabet. L'alphabet. Aleph Bet. Qu'est-ce que ça veut dire consoler l'alphabet? Nous disent les sages dans la Kabbalah que les lettres ont été endommagées. Oui. Les lettres avec lesquelles l'infini béni soit-il a créé le monde, car comment le monde s'est créé? Par des paroles. Baruch se'amar ve'haya ha'olam. Baruch omer ve'ose. Eh bien, les lettres de la création, ce sont comme des véhicules. Chaque lettre, en réalité, porte une qualité intérieure de lumière. Et la forme de la lettre que vous voyez, en hébreu, c'est en réalité la forme de la circulation de la lumière infinie dans ce canal qui prend la forme de la lettre. Et si vous regardez les lettres hébraïques, vous devenez sage. Les Chachamim nous disent « Otiyot Machkimot ». Les lettres de l'alphabet hébraïque, étant donné que c'est un alphabet divin, puisqu'on appelle cette langue « Lashon HaKodesh », c'est-à-dire le langage du Saint béni soit-il, eh bien ces lettres-là sont censées apporter de la lumière. Donc vos prénoms, ce sont des lettres combinées. On est d'accord? Tout ce que je suis en train de faire maintenant, ce sont des lettres combinées. Vous rêvez en lettres combinées. Vous parlez en lettres combinées. Vous réfléchissez en combinaison de lettres. Tout ce qu'il y a dans ce monde, ce sont des lettres. Donc les lettres servent à faire venir des énergies. D'ailleurs, comment on dit une lettre en hébreu? Ot. Et ça vient de la racine Atta. Et dans la Gemara, Atta veut dire venir. Atta Rabbi Simon. Rabbi Simon est venu. Donc Atta, c'est quoi Atta? Eh bien, c'est le monde des lettres. D'ailleurs, le Olam Haba s'appelle Alma de Atta. Le monde des lettres. Incroyable. Et donc les lettres véhiculent des énergies. Et selon la combinaison de mon nom, je peux savoir l'énergie de ce que je suis. Et donc c'est l'une des sagesses de la Torah. Aleph c'est la Chokhma, Bet c'est la Bina. De savoir lire, parler couramment l'hébreu. Et si vous ne savez pas encore parler l'hébreu, vous êtes encore mal à dire, parce que vous avez une mal à dire, malheureusement, et donc on est obligé de vous parler dans un langage étranger au langage du divin, qu'on appelle en hébreu l'orazi, rachetevot lashon avodazara. Donc là je suis en train de vous parler en avodazara, dans un langage de avodazara. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore guéri de 2000 ans d'exil. Et donc, quand on ne sait pas dire les choses, ça s'appelle une malédiction. C'est le mot. Malédiction. Et si je sais parler l'hébreu, c'est une bonne diction. Béné. Diction. Donc, je me dois de connaître les racines en hébreu. Je reviens aux lettres. Les lettres qui, par exemple, définissent une faute. Alors, je vais prendre une faute dans la Torah. La faute du veau d'or, par exemple. Alors, le texte de la Torah, il va utiliser des lettres, on est d'accord, pour définir la faute, pour exprimer la faute, pour relater la faute. Alors, il est écrit par exemple là-bas, « Vayar ha'am ki boses Moshe laredet minahar ». Je viens d'utiliser des lettres, j'ai fait une phrase, j'ai utilisé pratiquement toutes les lettres de l'alphabet. Donc, toutes les lettres de l'alphabet Et je ne parle pas que de cette faute-là. Je peux repartir à la source et parler de la faute du premier homme. Je peux parler de la faute des explorateurs. Je vais parler des matrices de faute. Mais ça suffit. Avec les trois que je viens de dire, on a déjà utilisé toutes les lettres de l'alphabet hébraïque, les mêmes lettres qui ont créé le monde pour détruire. Vous êtes d'accord? Les lettres en question sont venues chez Akadosh Baruch Hu et lui ont dit, attends, nous on est des lettres avec lesquelles tu as créé le monde. Comment est-ce que nous-mêmes on va servir maintenant à raconter une faute? Alors on demande une consolation. Et Akadosh Baruch Hu répond aux lettres, un mois dans l'année va venir vous consoler, vous les lettres, le Aleph Bet. On appelle ça le mois de Av. Av, c'est Aleph Bet. Donc Menachem Av, c'est la consolation de l'alphabet hébraïque. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça induit? Bien que je change ma manière de parler pendant le mois du Aleph Bet, Av. Donc c'est pas encore un mois, on a marqué Rosh Chodesh vendredi dernier et on avance. Si Dieu veut, juste qu'on vous débarrasse déjà ce dimanche prochain et lundi on commence la fiesta. C'est ça qu'on a dans la tête. Mais non, ça va beaucoup plus loin. Ce mois, je dois corriger le verbe. Mais pour corriger le verbe, je dois corriger ma vision des choses. Or, les sages nous disent que le mois de Tammuz et de Av, les deux mois qui nous angoissent, sont liés les deux aux yeux. Un à l'œil droit, un à l'œil gauche. Le Tammuz à l'œil droit, Av, œil gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire tout simplement que ma manière de voir a été, elle aussi, endommagée. Car les explorateurs ont tourné pendant tout le mois de Tammuz, avec l'idée de dire du mal de la terre d'Israël, plus les 9 jours du mois de Av, jusqu'à leur retour, où là aussi ils ont détérioré, donc les deux yeux ont été détériorés. Et c'est pour ça que nous pleurons de nos deux yeux. Si Aïn be'Aïn, Aïni, Aïni, Yordamaïn, on dit dans la Megillah de Echa, mon œil pleure de l'eau. Pourquoi? Bien parce que l'œil droit a été endommagé, l'œil gauche a été endommagé, on a vu des bêtises. Pas seulement qu'on a regardé des choses interdites, c'est qu'on ne sait pas voir les belles choses. C'est que notre œil a été tellement endommagé qu'à chaque fois que vous êtes en face d'une situation, vous voyez le mal. Vous ne savez plus voir le bien dans cette situation. Vous allez préférer dire le mal qu'il y a sur cette terre d'Israël plutôt que le bien. Oh là là, ça c'est pas bien, et ça c'est pas bien, et ça c'est pas bien. Jamais tu verras quelque chose de bien. Toujours le mal. Ça s'appelle du Aïn Hara. C'est ça le vrai Aïn Hara. C'est pas être jaloux de l'autre. C'est que tu es toujours avec un œil mauvais sur ce que tu vois. Tu vois un verre comme ça, tu dis qu'il est à moitié vide. Alors que Chacham en hébreu, c'est les initiales Chet, Chas, et même, c'est Kof Chati Melea. Chacham, c'est celui qui voit le verre à moitié plein. Quand tu étudies un texte, une gmara, c'est un pavé, avant de l'ouvrir, tu as déjà l'angoisse, tu te dis, mais comment, toute ma vie, je ne vais pas terminer tout ça. Donc tu regardes sur la gauche, puisqu'en hébreu, on ouvre les livres de gauche à droite, hein, on les tourne. Donc, celui qui regarde les pages de gauche, il est en dépression nerveuse. Et les chachamim nous disent, lève chacham mimino. Le cœur du sage n'est pas à gauche, il est à droite. Pas qu'il est placé à droite, c'est que même s'il a étudié 3 pages, ces 3 pages sont acquises. Il ne va pas chercher les 2000 pages qui lui restent en s'angoissant en disant, je ne vais jamais rien faire dans ma vie. Voilà le judaïsme. Et vous avez toujours quelqu'un pour vous casser le système, pour vous dire combien il vous manque, et pas combien vous avez déjà. Et donc on oublie, et on tombe dans une déprime, et cette déprime, Chas v'Shalom, il faut s'en sortir, il faut la corriger. Donc les lettres vont se corriger, il va falloir les corriger, il va falloir faire une bonne diction, bénédiction, pendant le mois de Aleph Bet, Av, pour être Menachem, pour être consolateur de l'être. Maintenant, les sages nous disent qu'il y a deux manières de corriger les lettres. Ou de la dernière lettre de l'alphabet, que nous devons revenir vers la première. Donc, je prends la dernière lettre de l'alphabet, le Tav. Et si je regarde dans le Tav, quand on écrit le Tav, ceux qui savent écrire les lettres hébraïques, savent que à la fin du Tav, c'est déjà la dernière de l'alphabet, mais en plus de ça, il y a un pied gauche, qui lui aussi, en bas du pied gauche, il a encore une psia les bas, c'est-à-dire encore un petit point qui va encore dehors. C'est le dehors du dehors, la totalité. La lettre Tav, c'est la mort. D'ailleurs, on l'utilise pour Met, Mavet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette lettre? Eh bien, il faut la coller au Aleph. Parce que le Aleph, c'est l'essence. Donc, si tu colles le Tav au Aleph, tu obtiens une cellule. Ta, en hébreu. Une cellule. Et Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec des cellules. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Alessa, Hashamayim v'Haaretz. Donc, je me dois de corriger. Donc, la lettre Tav, qui fait très 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 peur, parce qu'elle a aussi une valeur numérique, elle a un poids. Elle pèse 400. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a peur dans la Torah, il a peur de ses 400. Yaakov, il se dit, tiens, il y a mon frère qui vient, il y a 400 types avec lui. Alors, dans le sens simple de la Torah, c'est qu'il y a 400 cavaliers qui sont en train d'arriver. Donc, si tu imagines un fort à l'amour, je ne sais pas quoi, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a les 400 forces du mal. Et si tu veux les racheter, tu dois faire comme Abraham. Combien il a payé Meharat Amarpela? 400 pièces. Et c'est tout un jeu de code. C'est-à-dire, est-ce que j'annule la mort ou bien je donne à la mort la domination Chas v'Shalom? Et c'est ça tout le secret de ces lettres. Donc, le Tav doit revenir vers le Aleph. Maintenant, si je prends donc cet alphabet inversé, Tav, Shin, Resh, je suis déjà dans le mois de Tishrei. Vous voyez, le mois de Tishrei, c'est les lettres à l'envers. Mais il y a une autre manière de travailler. Au lieu de revenir de la dernière lettre à la première, on prend la première lettre, le Aleph, et on éclaire les autres. Et ça, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, un alphabet normal, dans l'ordre, tel que vous le connaissez aujourd'hui. Et il y a un mois dans l'année qui respecte ce rythme-là, Nissan. Nissan, c'est Nun, Samer, c'est dans l'ordre normal. Donc vous avez le mois de Tishrei qui est dans un ordre inversé, et vous avez le mois de Nissan qui est dans l'ordre correct. Et maintenant vous comprenez la discussion dans la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah à la page 11, entre deux sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, quand est-ce que le monde fut créé? L'un dit Nissan, l'autre dit Tishrei. Moi ça me fait bien rire. Parce que lorsque Dieu crée le monde, il n'y a ni Nissan, ni Tishrei. Il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de temps. Alors de quoi tu me parles? Il y a tout simplement les deux sages, leur discussion. C'est pas à quel moment Dieu créa le monde. C'est sous quel sens le monde va travailler. Est-ce qu'il va travailler de la fin, donc des résultats vers la source, comme Tishrei, Tita, Tim, Res, en allant vers le Halef, ou bien, ça c'est comme Rabbi Eliezer, et Rabbi Osho a dit non. Moi je pense qu'Akadosh Baruch Hu veut pas qu'on aille vers la fin et qu'on essaye de revenir à la source, parce qu'on ne trouvera jamais la source. Ça c'est peut-être la médecine, la science. On voit des résultats, des symptômes, et on essaie de trouver les causes. Rabbi Osho a dit non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je pense qu'il faut Nissan. C'est-à-dire dans l'ordre normal, c'est-à-dire je prends déjà le Aleph de la source divine et j'éclaire toutes les autres lettres de l'alphabet. Et les psychistes de Rashi, qui s'appellent Baalei HaTosafot, ils disent « Ellou ve'ellou divrei Elohim Chaim ». Les deux ont raison. Pourquoi les deux ont raison? Parce que tout simplement, ça dépend dans quelle situation, dans quel temps et qui, à qui ça s'adresse. Il y a des fois où il faut utiliser un alphabet inversé, qui s'attraque. Et d'ailleurs, il y a une prophétie, « Esreka lahem », je vais leur siffler, en hébreu, « l'ishrok », et ils vont revenir. Donc Dieu va siffler, et les enfants d'Israël vont revenir sur la terre. Ça c'est quoi? Partir du résultat, de l'exil, le plus loin, et revenir vers l'unité, vers le Aleph. Et parfois, il va y avoir des accélérations dans le temps, et ça sera la lumière du Aleph qui va éclairer les autres lettres de l'alphabet. Donc ça dépend des périodes dans lesquelles nous sommes. Il va falloir utiliser l'un des deux degrés. Et en réalité, dans notre vie, on va sûrement utiliser les deux. Il s'est arrêté ? תודה רבה. Là, souvent j'enregistre de toute façon audio. Donc je l'enverrai, vous l'enverrez. Top. Maintenant, une fois qu'on a compris ce système de base, j'arrive à un midrash. Le midrash nous dit dans Bereshit Rabba, Parasha Bet Siman Zayin, Amar Rabbi Chiya Rabba. Regardez, écoutez bien ce que va nous dire maintenant ce midrash. Mitrilat Briato Shel Olam, au commencement de la création du monde, Safa, Akadosh Baruch Hu a prévu, comme s'il avait des jumelles, il voyait ce qui allait se passer, et qu'est-ce qu'il a vu? Bet Hamikdash Banoui, il a vu le temple de Jérusalem construit, Ve Harev, et détruit, Ve Banoui, et construit. En réalité, vous comprenez que le Midrash ne s'arrête pas, c'est comme si ça continuait. Qu'est-ce que c'est que ce midrash? De quoi vient nous parler ce midrash? Qu'Akadosh Baruch Hu a prévu que le temple serait construit, détruit, construit. En réalité, cela vient définir le rythme même de ce monde. Le monde dans lequel nous vivons respecte cet ordre-là. J'explique avec des mots simples. Tout ce qui va se passer dans notre vie, ça va commencer d'abord par une construction, et à un moment donné, ça va se casser, et après, ça va se reconstruire. Mais j'ai fait exprès d'omettre, de dire un dernier mot. Quand c'est reconstruit, le Midrash rajoute un mot. Banoui ou Meshuchlal. C'est-à-dire que la deuxième construction, après la destruction, et après la construction première, la deuxième construction, ce sera une construction beaucoup plus forte, beaucoup plus améliorée que la première. Et donc vous avez ici l'ordre du monde. Voilà l'ordre de la vie. Tout ce que vous allez faire dans votre vie, donc c'est rassurant, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une période d'entité, tout va marcher bien comme il faut, mais à un moment donné, ça va se casser la figure. Donc je vous avertis d'avance, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde de cette manière. Et une fois que ça a été détruit, ça va être reconstruit. Et la deuxième construction va être beaucoup plus forte que la première. Qu'est-ce que c'est que ce rythme-là? Pourquoi? Bien, nous disons le Chachamim, la première construction, c'est ce qu'on appelle une Ségoula. C'est une donnée divine. Tu n'es même pas là pour la recevoir. Elle t'a été parasitée directement par l'infini béni soit-il. On va prendre l'exemple d'un bébé dans le ventre de sa mère. Ok? Le bébé dans le ventre de sa mère, c'est une entité. Il se trouve dans un monde parallèle. Il n'est même pas dans ce monde. La preuve, c'est qu'on ne compte pas les jours où il est dans le ventre. On va commencer les comptes de jours de sa vie seulement après sa naissance. Donc il est dans un autre monde, dans une autre dimension. Et là-bas, il est dans une entité totale. À quel point que la Gemara, dans le traité de Nida à la page 30, nous dit qu'on lui enseigne toute la Torah. Donc il est entier. Et il est tellement entier qu'il voit de la fin de l'extrémité du monde jusqu'à l'autre extrémité du monde. Incroyable. Un génie. Une lumière. D'ailleurs, la Gemara nous dit qu'il ressemble à un carnet plié. Alors, la tête touche les pieds. C'est comme ça que le bébé se trouve dans le fœtus dans le ventre de sa maman. Pourquoi? Pour nous indiquer que la tête doit toucher les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire que la tête doit toucher les pieds? C'est-à-dire que le jour où il va s'allonger, quand il va grandir, il va oublier que la tête doit être reliée aux pieds. Donc il va penser, et jamais réaliser. Il y aura un décalage entre sa tête et ses jambes, alors que la matrice, dans le ventre de sa mère, on l'a mise dans cette position pour lui dire attention, quand tu sortiras, rappelle-toi, tout ce qui est au niveau de ta tête, il faut que tu le dises. Si tu ne vis pas avec tes pieds qu'il y a dans ta tête, c'est un problème. On appelle ça, par exemple, les gens qui ont des problèmes de pieds. En hébreu, meraglis. C'est ça le meraglis. C'est-à-dire que c'est une Torah de l'esprit, qui a la yeshiva, qui étudie, mais tu as complètement zappé que tout ça, ça a une direction, ça a un sens sur la terre que je t'ai dit de venir. Je ne l'ai pas inventé. À tel point qu'il y a des gens qui se sont arrêtés au Mont Sinaï, ils se sont dit, tiens, une grande yeshiva, magnifique, yeshiva Har Sinaï. Quand tu montais sur la montagne, il y avait une pancarte à l'entrée, yeshiva Har Sinaï. Tu demandes qui c'est le grand rabbin ici, Moshe. Oh. Il est à côté de lui, à Aaron, c'est du génie. La Torah directement du ciel. C'est un problème, tu demandes, Moshe y va, Nazi, ta, tu te ramènes la réponse. Et comment ça se passe au niveau de... On paye dans cette yeshiva? Non, tu n'as pas besoin. C'est l'eau gratuitement. C'est Myriam qui fournit. Il y a un puits. La manne, elle tombe du ciel, tu as du pain, tu n'as même pas besoin de travailler. Tes vêtements, ils grandissent avec toi, repassés, propres. C'est quoi cette yeshiva? Donc, les gens, naturellement, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On reste. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais si c'était le cas, la Torah aurait dû terminer son texte à quel livre? Shemot. À quel parasha? Yitro. Il serait dit, c'est Yitro. Mais les Chachamim disent non. La preuve, c'est que ce Shabbat, on va commencer le livre de Devarim. Le livre où on rentre sur la terre d'Israël. Alors quoi, cette yeshiva n'est pas bonne? Elle est très bonne. Mais Akadosh Baruch Hu leur dit, Rav Lachem Shevet Baharazé. Vous n'avez rien compris. Quittez cette yeshiva, il faut aller sur la terre maintenant. Eh bien, le bébé dans le ventre de sa mère, c'est pareil. Il est entier. Et que se passe-t-il au moment où il naît? Nous dit la Gemara, il y a un ange qui vient pour perturber tout ce qu'il a étudié. On lui fait oublier tout ça. Et il oublie. Alors, quoi ça sert? Tu as étudié, on t'a enseigné la Torah pendant toute la grossesse de ta maman, qui était dans l'Inapar, en train de tourner dans un liquide magnifique, tranquille, la chaleur extraordinaire. Maintenant que tu sors, on te fait oublier tout ce que tu as fait. Pourquoi faire? Pour que tu étudies maintenant. Alors, tu réétudies en fait ce que tu as déjà étudié. Donc, toute la Torah que vous étudiez dans ce monde, ce n'est qu'une répétition. Et c'est pour ça que ça s'appelle Mishnah. C'est la deuxième partie. Alors moi, je vous pose la question, à quoi ça sert? Il n'a pas un autre rythme, Akadosh Baruch Hu, une entité, il casse cette entité et il se demande maintenant de la retrouver. Ça, c'est l'ordre du Midrash que je vous ai cité tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu nous donne quelque chose d'entier, mais la première fois qu'il nous l'a donné, c'était gratuit. Tu n'as rien fait pour l'avoir. On t'a enseigné la Torah. C'est très précis dans la Gemara. Mais l'ambimoto, l'ohu l'omed, il ne se dit que là, on lui enseigne. C'est-à-dire, il est complètement passif. Mais quand il va sortir dans ce monde, c'est lui qui va étudier. Et là, il va acquérir ce qu'il a eu gratuitement la première fois. Donc, quelle Torah sera plus grande, celle qu'il a étudiée dans le ventre de sa mère, ou bien celle qu'il aura étudiée durant sa vie? Durant sa vie, bien entendu, parce que maintenant il est associé. Donc, vous avez ce rythme-là. Binyan, Khorban, Binyan. Un autre exemple. Premier jour de l'année, Rosh Hashanah. Il y a une seule mitzvah, Rosh Hashanah. Une seule. Quoi, Sofa? Non. Non. D'écouter, pas de sonner. Lise-moi, d'entendre, c'est une fête, mais c'est important. Et d'entendre quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le chauffard? Qu'est-ce que tu dois entendre? Les sons? Non. Les colosses, pas les sons. En hébreu, son, c'est l'île. Donc si vous entendez des sons du chauffard, ça suffit pas, Rabotai. Lise-moi, col, chauffard. Vous savez ce que c'est un col? C'est énorme, c'est profond. C'est pas l'île. Oui, c'est un son, une sonorité de ce monde. Kol. Moshe Yedaber, Veha Elohim Ya'anenu Bekol. C'est une voix, presque V-O-I-E, même pas X. Vous êtes capable d'entendre la voix du chauffard? Ou juste la sonorité? Allez, si Dieu veut que par Amachol, l'année prochaine, allez, il a bien sonné. C'est ça le problème. C'est qu'on est tellement devenu petit qu'on a perdu le sens des choses. Il faut arriver à un degré où le chauffard t'indique le sens de ta vie. Alors, malgré tout, il y a des sons qui vont sortir, que nous, les hommes, les femmes, on va entendre. Quel est le premier son? Un son continu. D'ailleurs, ceux qui sont du chauffard, il ne faut pas faire « oui » à la fin. C'est ce qu'on appelle une « tekia ». Qu'est-ce que ça vous invoque? Le monde parfait, d'origine, continu. Il n'y a pas de changement, tranquille, plein. Immédiatement après, la brisure. D'ailleurs, ça s'appelle une brisure, « svarim ». Bismillah. Ta, 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 si tu m'as cassé, j'étais tranquille. Pourquoi tu me casses le rythme? Bet Mikdash Banoui, Vecharev. Et c'est tellement charev, tellement détruit cette origine, que ça va même se subdiviser. d'ailleurs une halakha, la longueur au niveau du temps, du tout, 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 et du tout, 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 ça doit être comme le tout premier. C'est-à-dire 4 secondes minimum. Pour vous dire qu'en réalité, c'est toujours le même son, seulement au départ il était entier, et maintenant il est découpé. Et pourquoi ? Mais tout simplement parce que nous, les hommes, nous ne sommes pas capables d'entendre quelque chose d'entier. C'est terrible pour nous. On devient fou. Nous, on est dans un monde binaire. C'est pour ça qu'on nous a créés avec deux oreilles. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu étudies, il faut au moins entendre deux sons de cloche dans ton étude. Pour que ton étude soit forte, il faut que tu étudies avec quelqu'un. O chavruta, o mituta. Ou tu étudies avec quelqu'un pour être capable d'entendre autre chose, ou bien tu es mort. Alors pour jouer un petit peu, puisqu'on parle déjà en français, il faut toujours écouter au moins deux sens pour ne pas être dans l'un des sens. Écouter un seul son de cloche de la Torah, c'est de l'indécence. Donc tu es obligé d'écouter la Torah en stéréo. La preuve, Dieu parle dans son unité parfaite que je ne comprends pas, et immédiatement quand la Torah elle arrive dans ce monde, il y a déjà deux tables. Pourquoi il y a deux tables? Il y avait une seule Torah, dès qu'elle arrive dans notre atmosphère, elle se découpe en deux. David Améler, qui a compris ce secret, dit « Achat diber Elohim, taim zu shamati ». Dieu parle en code 1, moi l'homme, je ne peux pas, donc je suis obligé d'entendre en code 2. Donc Dieu parle à l'est et moi j'entends le bet. Vous avez compris? Eh bien la même chose, le chauffard, son premier, découpage du son, brisure du son, et après tu es paumé dans les détails. C'est-à-dire que, il y a une très très belle expression en hébreu, apprenez-la, merov etim lo roim et hayar. À force de voir des arbres, tu as oublié qu'il s'agit d'une forêt. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous demande? Que des détails, vous ne savez même pas. C'est la mitzvah comme ça, c'est une autre mitzvah, c'est une autre mitzvah. C'est cette mitzvah, c'est cette mitzvah, c'est cette mitzvah. Mais tu ne sais même pas de quel peuple tu es sorti. Qui est ce peuple? Quelle est sa nature de ce grand tout? Tu es immédiatement plongé dans les mitzvot. Comment tu veux t'en sortir? Et c'est pour ça que le dernier son, qu'est-ce qu'il est? Comme le premier. Donc qu'est-ce que je viens de vous dessiner? Eh bien la même chose que ce que je vous ai dit au niveau du Midrash. Au début, il y a une unité, après elle se brise, et elle va se subdiviser dans sa brisure pour que te donner le temps à toi de retrouver le premier son de la plénitude, mais cette fois-ci, plus solide parce que tu auras été acteur et non pas spectateur. Et pendant cette brisure en réalité, pourquoi Dieu brise les choses dans notre monde? C'est difficile en français, en hébreu c'est tellement beau pour donner du revach. Vous savez ce que c'est un revach en hébreu? Un espace, mais c'est en même temps un gain, un bénéfice. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est seulement lorsque tu as dans ta vie un espace que tu peux avoir un bénéfice. Parce que cet espace, c'est pour que toi, tu entres. C'est comme une invitation à Kadosh Baruch Hu. Parce que dans le premier son du chauffard, tout, je ne peux pas rentrer. C'est trop parfait. Donc à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va découper. Et en découpant, toi, tu as l'impression que c'est une catastrophe. Alors qu'en réalité, il te donne la place de faire partie de ce jeu. Magnifique. Mon père était tailleur, dit Ronan Ibrahim. J'ai vu des gens lui apporter des tissus de 2000 euros le mètre carré. Il ne fallait pas qu'il revienne le lendemain, le type. Parce que s'il revenait le lendemain, il voyait tout son tissu à 2000 euros en morceaux. Et mon père avec les ciseaux, tac, 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 le type, qu'est-ce que tu vas faire? Tu
tu m'as massacré Jésus.
Non, je coupe pour construire, pour reconstruire un costume. Viens à la fin de la semaine, tu verras. Donc il y a une xéra. Pour vous, xéra, ça veut dire une catastrophe, d'accord? Non, xéra en hébreu, c'est une coupure. Akadosh Baruch Hu, gozer. Sadik, gozer. Akadosh Baruch Hu, mekayem. Donc il faut que je sache découper l'unité pour la comprendre. Si je vous donne un morceau de pain, un pain entier, vous pouvez le manger? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le couper. Vous comprenez ce que ça veut dire quand vous allez chez le coiffeur? Comment on dit un coiffeur en hébreu? Safar. Donc, comment on dit couper les cheveux? Les safers. Les safers, ça veut dire quoi les safers? Raconter. Donc raconter, c'est comme couper les cheveux. Pourquoi? Parce que tu découpes l'idée en mots, en lettres, en phrases. C'est extraordinaire l'hébreu. Et qu'est-ce que nous sommes? Nous, le peuple d'Israël, à quoi ça sert? Amzu yassartini, tehillati yassarperu. Tout ça, c'est pour une seule chose, pour qu'on raconte. Donc, pour raconter à Kadosh Baruch Hu dans le monde, il faut être capable de couper les choses, de découper les choses. Donc, encore une fois, le tailleur, c'est le même hydrate. Au début, il y a un tissu entier. Après, on coupe le tissu à une brisure, et ceux qui ne comprennent rien deviennent fous. Et après, il y a un costume soufflé, magnifique. Binyan, Korban, Binyan, Mesouklal. Je peux continuer jusqu'à demain matin à vous donner des exemples. Toute notre vie, elle est construite de cette manière. Quand vous étiez en France, vous étiez apparemment dans une plénitude. Oh. Vous êtes arrivé en Israël, la brisure. Et maintenant, il faut tout reconstruire, mais ça va être d'un niveau que vous ne pouvez même pas soupçonner. C'est autre chose. Vous êtes dans une autre classe, dans une autre cour de récréation. C'est autre chose. Et ceux qui n'ont rien compris, qu'est-ce qu'ils veulent retrouver? Ce qu'il avait au début. Non, lui dit, mais pas du tout, tu vas avoir mieux encore. Oublie, change, monte, évolue. Sinon, tu vas retrouver maximum ce que tu pensais avoir au départ. Mais moi, je veux te donner quelque chose de plus grand. Je vais vous demander une question très simple. Qu'est-ce qui est plus élevé? Shabbat ou la sortie de Shabbat? Il se commence à se maquiller maintenant. C'est la sortie de Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est déjà dans le Shabbat d'après. C'est un niveau beaucoup plus élevé. Mais si tu regardes au premier degré, tu te dis, j'étais dans un degré extraordinaire, Shabbat, maintenant je suis tombé. Non! Tu es tombé, certes, mais à un étage supérieur. Tu étais le champion de Kissa Aleph, maintenant tu es paumé en Kissa Beth. Mais tu es en Kissa Beth. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, il vaut mieux être à la queue d'un lion qu'à la tête d'un renard. C'est ça que ça veut dire. Et toute la Torah, c'est de cette manière-là. Toute cette construction, elle se détruit, elle se reconstruit. Et donc, Shabbat, encore une fois, le premier Shabbat de la création, parce qu'avant la création, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'infini, tout seul. Il a créé le monde. C'est quoi la création du monde? C'est une brisure. On est d'accord? C'est une sphira. C'est la brisure de cette entité. Et qu'est-ce que c'est que la Géoula? Eh bien, c'est retrouver, en fait, cette plénitude est encore plus élevée. Et donc, toute notre vie, c'est tout simplement trouver un point de l'infini et essayer de le rentrer dans ce monde qui est carré. Ça ressemble un petit peu au match de foot. Il faut rentrer une balle dans une case. Et il y a 22 lettres, donc 22 joueurs. Pareil. Et quand ça marche, qu'est-ce qu'on appelle? Le Goël. Goël! C'est ça la Géoula. Cette synagogue, elle s'appelle Géoula, la Chandora Géoula. C'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous arrivez à rentrer un cercle dans une droite, vous savez que c'est le plus grand secret de la Kabbalah. Quand vous regardez un stade de foot par-dessus, vous voyez Igulin Veyosher. Incroyable. c'est le cercle et la droite. C'est un secret énorme. C'est des cours à part entière. C'est toute la base de notre vie. Mais tout ça, c'est pareil. Quand vous étiez au départ de votre vie, vous étiez déjà marié. Vous savez? Vous êtes descendu dans ce monde, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a séparé. Donc, le guet a déjà eu lieu avant que tu te maries. D'ailleurs, la Gemara de Gittin est avant la Gemara de Kiddushin. Ça veut dire qu'il divorce avant de se marier. De quel divorce? Mais quand tu es descendu du ciel, tu as divorcé. Et maintenant, il va falloir que tu couvres ou ta femme ou ton mari pour reformer ce couple qui va être beaucoup plus fort que ce qu'il était au départ. Encore une fois, Banoui, Charev et Banoui ou Mesuklal. La Torah, Kadosh Baruch Hu nous donne la Torah, sur quelle montagne il nous la donne? Sinaï. Comment s'appelle l'autre nom de Sinaï? Har Chorev. Traduction en hébreu, destruction. La montagne de la destruction. Comment tu me donnes une Torah sur la montagne de la destruction? Oui, parce que si tu n'es pas capable de détruire ta vie d'aujourd'hui, tu n'as pas cette souplesse, tu ne pourras pas réellement grandir dans ta vie. Tu vas rester parvé. Et toute notre vie, c'est comme ça, Rabotai. Et c'est ça que le Midrash vient nous dire. Et pourquoi je vous raconte tout ce Midrash aujourd'hui, maintenant, à ce cours-là, quelques jours avant Tisha B'Av, qu'Akadosh Baruch Hu nous a adouci encore une fois de plus, ça fait déjà quelques années que c'est comme ça, qui nous fait tomber Shabbat pour qu'on le reporte à dimanche, c'est déjà un autre degré. C'est énorme. Je crois que c'est comme ça, c'est anodin. Qu'Akadosh Baruch Hu nous met Tisha B'Av Shabbat. Tisha B'Av, tu dois jeûner, et là, tu n'as pas le droit de jeûner. Tu vas faire une Seouda Masseket, pas avec des œufs et des lentilles comme un malheureux par terre, comme le roi Salomon. La Seouda Slichit, ça va être la Seouda Masseket. Incroyable. C'est-à-dire, pendant Tisha B'Av, vous allez être à table comme des rois. Et le lendemain, ce sera déjà le 10 Av. Et c'était la même chose pour le 17 Tamoul. Vous avez jeûné le 18, pour ceux qui ont jeûné. Incroyable. Eh bien, pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? Mais tout simplement pour ne pas tomber dans une dépression. Je vais terminer par une Mishnah. La Mishnah nous dit clairement que Shem Shemishnas Av Mema'atim Besimcha, Kach Mishnas Adar Marbim Besimcha. De la même manière que lorsque le mois de Av arrive, il faut diminuer la Simcha, de la même manière, pendant que le mois de Hadar arrive, il faut augmenter la Simcha. Et moi, je vous pose la question, est-ce que vous avez entendu dans tout ce que je viens de dire le mot tristesse? Non. Le mot tristesse? Non. Il y a une seule référence, c'est la Simcha. Autrement dit, on a un seul curseur, il y a marqué dessus Simcha en gros plan, et de temps en temps, tu augmentes et tu diminues. C'est tout, mais c'est que de la Simcha. Donc ceux qui sont angoissés aujourd'hui et qui sont dans la tristesse aujourd'hui, ils sont en dehors du jeu. C'est pas ce que je vais vous dire. Il s'agit juste de diminuer la Simcha. Et maintenant, je vais te rajouter une couche. Tu sais pourquoi il faut diminuer la Simcha? Parce que normalement, tu es censé être très, très, très sameach. Et comme tu risques de dépasser les bornes, on te dit, enlève un petit peu la Simcha. Parce que naturellement, vous sentez qu'à la fin des temps, Tisha B'Av va être le jour le plus heureux de l'année. C'est marqué comme ça. Et vous le sentez déjà aujourd'hui. Moi, j'habite à côté de Jérusalem. Quand je vais au Kotel, je me demande presque s'il manque juste les guitares. Ils sont tous assis par terre, tous les jeunes, dans une ambiance qui n'est plus du tout le Tisha B'Av il y a 2000 ans. Hein. C'est autre chose. Pourquoi? Parce que intuitivement, ils voient que quelque chose va changer. Les bolos et l'enlame qui aveuglent. On est dans un processus en plein dedans, presque à la fin de la fin. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as parfaitement notre pays est en train de devenir une puissance mondiale dans tous les domaines. Et toi, tu as encore le mauvais œil. Ah. Rabotaille, il faut reprendre l'œil positif. Et Akadosh Baruch Hu dit par la bouche du prophète « Ki aïn be'aïn yir'u b'shuv Hashem Sion » Quand tu mettras ton œil par rapport à un autre œil, celui d'Akadosh Baruch Hu entre guillemets, et que tu vas voir comme lui voit le monde, tu vas voir toi aussi le monde.
Comme lui aime son peuple, tu vas aimer ton peuple. Comme lui aime sa terre, tu vas aimer sa terre. Comme lui aime sa Torah, tu vas aimer sa Torah. Eh bien, crois-moi que tu vas être le plus heureux des hommes et des femmes. Parce que tu vas certifier l'éternel dans ce monde. Or, le mot certifié en hébreu, c'est le Hacher. Et donc, je suis Meushar. Meushar veut dire heureux. Dans le bonheur. Donc, Bezat Hashem, je nous souhaite à tous de certifier à Kadosh Baruch Hu, de surtout pas le déranger, parce qu'il est en train de descendre sur terre. Il est en train de se dévoiler. Il faut surtout pas le déranger. Ne faites pas des choses qui bloquent son écoulement, son dévoilement. C'est en train de se faire de plus en plus. Et chaque fois qu'un juif va revenir à sa terre, il va augmenter le flux divin dans ce monde. Et bientôt, nous allons voir non seulement le temple reconstruit, mais le temple va être beaucoup plus fort, beaucoup plus entier que les deux premiers temples qu'il y a eu à Jérusalem. Dans le premier temple, il y avait une notion de comprendre le tout, mais on négligeait les détails. Dans le deuxième temple, on négligeait le tout, mais on donnait une force aux détails. Dans le troisième temple, on comprendra le tout et on respectera les détails de chacun de nous. Toda Rabba. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני יחפץ למען צדקו יסביב תורה ויעדיר. Amen.